Washington, la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, à l'occasion du congrès annuel de la Société internationale du SIDA, des chercheurs français ont présenté le cas d'une jeune séropositive aujourd'hui en rémission alors qu'elle n'est plus sous traitement depuis 12 ans.
Cette fille est en rémission de l'infection par le VIH, donc elle n'est pas guérie. On peut détecter des virus intégrés dans ses cellules, mais le virus est extrêmement bien contrôlé. Ce qu'on ne retrouve pas, c'est la réplication, la multiplication du virus dans le sang.
On entendra le docteur Assier Saez-Sirion de l'Institut Pasteur. Des crevettes pour combattre les parasites de la schistosomiase en Afrique. Mais oui, c'est possible. Deux pages manuscrites sur parchemin seraient les passages les plus anciens du Coran jamais retrouvés.
Ces feuillets manuscrits dateraient de la fin du 6e siècle ou du début du 7e siècle. Ils étaient conservés depuis près d'un siècle au sein d'une collection de livres et de documents du Moyen-Orient sans attirer l'attention.
Tous les détails avec Salwa Jafari et la NASA confirment la découverte de la planète Kepler 452b, une exoplanète jumelle de la Terre. Vancouver, au Canada, vient d'accueillir le congrès annuel de la Société internationale du SIDA. Après 30 ans d'efforts, le virus du SIDA résiste toujours aux tentatives des scientifiques pour développer un vaccin. À cette occasion, les participants se sont penchés sur les travaux d'une équipe de recherche canadienne à l'Institut de recherche clinique de Montréal, dirigée par le virologue moléculaire Eric Cohen, professeur à l'Université de Montréal. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Les chercheurs ont fait une découverte importante sur la façon dont le VIH échappe aux réponses antivirales du corps. L'équipe a démontré comment une protéine virale du VIH nommée VPU déjoue le système immunitaire en utilisant un processus régulateur qui lui est propre pour esquiver la première ligne de défense de l'hôte. Cette percée est publiée dans la revue scientifique PLOS Pathogens, ouvre la voie à de futures stratégies de prévention et de guérison du VIH. L'objectif de l'étude était de déterminer comment le VIH réussit à compromettre les réponses antivirales durant la période initiale d'infection durant laquelle le virus s'établit dans le corps. C'est une période charnière dans laquelle se détermine non seulement la complexité, mais aussi l'ampleur de la maladie, notamment l'abondance des réservoirs cellulaires de longue durée contenant des formes latentes du VIH. Ces réservoirs viraux qui cachent le virus du système immunitaire et des médicaments antiviraux représentent le principal obstacle vers une guérison. Le défi est que le VIH a développé des mécanismes qui empêchent la réponse par l'interféron et qui, jusqu'à maintenant, demeuraient incompris, a expliqué le docteur Eric Cohen.
Toujours concernant la conférence de Vancouver sur le VIH-SIDA, des chercheurs de l'Institut Pasteur en France ont annoncé qu'une jeune Française infectée par le virus du SIDA, soit pendant la grossesse de sa mère, soit à l'accouchement, est aujourd'hui en rémission alors qu'elle n'est plus sous traitement depuis 12 ans. Son cas unique au monde est intégré dans une étude menée par l'Institut Pasteur, l'INSERM et les hôpitaux de Paris et soutenue par l'Agence nationale de recherche sur le SIDA. Pour plus de précisions, on écoute le docteur Assier Saez-Sirion de l'Institut Pasteur.
Tout commence quand la fille allait naître. Sa maman est arrivée à l'hôpital avec une charge virale VIH qui n'était pas contrôlée malgré un traitement antirétroviral de l'époque, donc ce n'était pas le type de traitement qui était disponible un peu plus tard. Et donc, elle a reçu un traitement prophylactique les jours de sa naissance avec une molécule antirétrovirale pour essayer d'empêcher son infection au cas où ça pourrait se produire au moment de l'accouchement. Malheureusement, ce traitement prophylactique qui était maintenu pendant 6 semaines n'a pas empêché l'infection de cet enfant. Et après la discontinuation du traitement prophylactique, il y a eu une forte charge virale VIH qui augmentait, c'était ce bébé à l'époque. Et à 3 mois d'âge, un traitement antirétroviral plus similaire à ce qu'on a aujourd'hui a été initié.
Mais ce traitement n'a duré que jusqu'à l'âge de 6 ans.
Tout à fait. À l'entour de 6 ans, la famille était perdue de vue dans les centres cliniques. 12 mois plus tard, quand ils sont revenus, la fille n'avait pas pris ses médicaments depuis quelques mois. La surprise a été d'observer que sa charge virale était parfaitement contrôlée malgré cette absence de traitement antirétroviral. Comme elle allait cependant très bien avec des critères cliniques parfaitement stables et la charge virale était indétectable, la décision a été de ne pas reprendre le traitement antirétroviral, mais de faire un suivi très rapproché de cette fille. Et donc, il s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, quand elle a plus de 18 ans. Elle a maintenu un contrôle de la virémie et tout ce temps-là, et en absence des antirétroviraux.
Elle fait partie d'un groupe assez restreint d'adultes qui sont séropositifs, mais qui parviennent à vivre avec le virus sans séquelles, apparemment. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces sujets ?
Ces sujets qui sont en rémission de l'infection sont étudiés dans une étude qu'on a appelée Visconti. On a encore de ce type de patients. Et donc la première chose que ce nouveau cas a apporté, c'est qu'on a apporté la preuve de concept qu'une rémission durable de l'infection par le VIH peut être aussi réussie chez les enfants, comme on l'avait montré déjà pour les adultes. Et ce n'était pas gagné parce que les enfants ayant un système immunitaire pas mûr au moment de la naissance, on ne savait pas si ça serait possible. Après, ce qu'on apprend de tous ces cas, c'est que aussi bien les adultes de l'étude Visconti comme cette jeune fille, en tout cas à chaque fois les cas pour les patients que nous étudions, le point de départ semble être l'initiation d'un traitement antirétroviral très précocement après l'infection. Ça semble clé, même si on sait que l'initiation précoce du traitement antirétroviral ne va pas permettre la rémission qu'à une minorité d'individus. Donc maintenant, on essaie de comprendre quels sont les mécanismes associés à cette rémission, d'une façon que, d'un côté, en identifiant ces mécanismes ou ces facteurs, on puisse prédire qui sont les patients qui vont se bénéficier d'un traitement antirétroviral et obtenir une rémission. Et de l'autre côté, avec la compréhension des mécanismes, développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour que tous les patients affectés par le VIH puissent un jour arriver à cet état de rémission et n'aient plus besoin de prendre un médicament tous les jours.
Cette jeune fille, peu après sa naissance, avait reçu pendant 6 semaines le médicament Zidovudine. Est-ce qu'on a pu observer le même impact chez d'autres patients qui auraient reçu ce médicament ?
C'était un protocole assez standard à l'époque. Ça continue à se faire en partie aujourd'hui de la même façon. Donc la plupart d'enfants qui sont nés à cette époque-là en France ont reçu ce type de traitement prophylactique. La plupart d'enfants nés des mères qui étaient infectées par le VIH, évidemment, ont reçu ce type de traitement prophylactique. Nous, on a regardé au sein de la cohorte française, la cohorte pédiatrique qui a été créée par l'ANRS, par l'Agence nationale de recherche sur les SIDA, et ici en France en 1986. On a pu regarder qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants qui sont suivis dans cette cohorte. Par exemple, on a pu identifier uniquement 15 enfants qui ont reçu ce type de traitement prophylactique à leur naissance, qui ont eu après un traitement antirétroviral un peu plus large, de plusieurs molécules et qui a duré plusieurs années, et qui avaient une charge virale complètement contrôlée grâce à ce traitement antirétroviral, et qui ont par la suite, pour des raisons très diverses, interrompu le traitement antirétroviral. Donc, il y a uniquement 15 dans tout l'accord français qui ont suivi ces critères. Parmi ces 15, 13 enfants ont perdu le contrôle très rapidement. Dans les premières 12 mois, 13 enfants ne contrôlaient plus l'infection et il a fallu recommencer le traitement antirétroviral. Il y a eu un autre enfant qui était capable de contrôler l'infection pendant une période de 3 ans. Et après, il y a ce dernier cas où le contrôle de l'infection est très remarquable et durable dans le temps et qui continue aujourd'hui. Donc, c'est rare, la plupart des patients ne vont pas réussir, mais il y a quand même, dans cette étude de la cohorte pédiatrique, on a trouvé que c'était 1 sur 15 enfants qui ont suivi le même type de procédure et qui ont réussi à obtenir cette rémission.
Et en conclusion,
simplement rappeler que cette fille est en rémission de l'infection par le VIH, donc elle n'est pas guérie. On peut détecter des virus intégrés dans ces cellules, mais le virus est extrêmement bien contrôlé. Ce qu'on ne retrouve pas, c'est la réplication, la multiplication du virus dans le sang. Par contre, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est si un jour cette fille il aurait besoin de reprendre un traitement antirétroviral, peut-être quand son système immunitaire s'affaiblira un peu avec le temps. Mais on souhaite que ça ne soit pas nécessaire, bien entendu.
Le docteur Assier Saez-Sirion de l'Institut Pasteur, il était joint en France. Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Gros-Didier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé, un programme diffusé sur VOA Afrique. On se tourne vers l'espace pour signaler que la NASA a confirmé la découverte de la planète Kepler-452b, l'exoplanète qui ressemble comme une jumelle à la Terre. Selon l'Agence spatiale américaine, cette découverte a été rendue possible par le télescope spatial Kepler qui a pu déterminer que Kepler-452b se situe dans une zone habitable autour d'une étoile du même type que notre Soleil. Tout permet de croire, ajoute la NASA, que la surface de la planète pourrait abriter de l'eau à l'état liquide et donc potentiellement une forme de vie. Kepler-452b fait partie d'un groupe de 12 nouvelles exoplanètes figurant dans le catalogue des découvertes du télescope Kepler. Toujours concernant la conquête de l'espace, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a annoncé cette semaine le projet le plus ambitieux de détection d'intelligence extraterrestre à ce jour. Le point avec Morgan Guiriec.
Ce nouveau programme de recherche, baptisé Breakthrough Listen, soit en français plus ou moins percé dans l'écoute, structurera l'univers avec de puissants radiotélescopes. Le projet financé par le milliardaire russe Yuri Milner, qui lui a alloué 100 millions de dollars. Physicien de formation, il a fait fortune en investissant dans des start-up prometteuses, dont Facebook. Dans un univers infini, il doit y avoir des traces de vie, a souligné Stephen Hawking. Quelque part dans le cosmos, peut-être une vie intelligente regarde, a-t-il ajouté. Afin de débusquer la manifestation d'une civilisation intelligente, comme une fréquence radio ou un rayon laser, le projet surveillera durant 10 ans les signaux d'un million de systèmes solaires avoisinants dans les 100 galaxies les plus proches de la Terre, pour tenter de capter un signal d'une intelligence quelconque. Le dernier projet similaire était connu sous l'acronyme SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence. On peut traduire ces mots par recherche d'une intelligence extraterrestre. Il s'agit d'un programme américain lancé dans les années 1960 qui regroupait des projets dont le but était de détecter les signaux qu'une intelligence extraterrestre aurait pu émettre. Encore enfant, Yuri Milner avait dévoré le livre « Intelligent Life in the Universe », en français « La vie intelligente dans l'univers », un ouvrage de Carl Sagan, lui-même promoteur du projet SETI dans les années 1980.
Ici Washington, Camille Gros-Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme de VOA Afrique diffusé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Deux pages manuscrites sur parchemin qui seraient des sections des chapitres 18 et 20 du Coran ont été découvertes par une étudiante dans une bibliothèque universitaire britannique. Il s'agirait, Salwa Jaafari, des pages les plus anciennes du Coran jamais retrouvées à ce jour.
En effet, Camille, les deux pages ont été découvertes par Alba Fedeli dans la bibliothèque de recherche Cadbury à l'université de Birmingham en Grande-Bretagne. Ces feuillets manuscrits dateraient de la fin du 6e siècle ou du début du 7e siècle. Ils étaient conservés depuis près d'un siècle au sein d'une collection de livres et de documents du Moyen-Orient sans attirer l'attention jusqu'à ce que Madame Fedeli s'y intéresse pour sa thèse de doctorat. À ce moment-là, elle a réalisé que leur apparence différait des autres textes qu'elle examinait. L'université de Birmingham a décidé de réaliser une datation au carbone 14 et à la stupeur générale, l'analyse a permis d'aboutir à la conclusion que le manuscrit avait été écrit entre 568 et 645 de notre ère, avec un degré de certitude de 95,4%. Selon la tradition islamique, le prophète Mohammed aurait vécu entre 570 et 632. Donc, le parchemin proviendrait soit du temps du prophète Mohammed, soit des années qui ont suivi sa mort. Il s'agit de versets des chapitres ou sourates 18 à 20, écrits à l'encre en hijazi, un style calligraphique arabe ancien. Ces feuillets proviendraient du même codex que d'autres conservés à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Un avertissement néanmoins, l'équipe doit encore faire tester l'encre du parchemin pour vérifier que le texte n'a pas été rédigé à une date bien ultérieure à sa fabrication. Les deux feuillets font partie d'une collection léguée par Alphonse Mingana, originaire du Kurdistan irakien et décédé à Birmingham. Ce prêtre et théologien chrétien, célèbre orientaliste, avait recueilli plus de 2000 manuscrits syriaques et arabes au Proche-Orient au début du XXe siècle, dont certains d'une valeur inestimable et d'autres contenant des textes encore inconnus à l'époque. L'essentiel de ces manuscrits forme la collection Mingana de la bibliothèque de recherche Cadbury à l'université de Birmingham. Mais la réputation scientifique de Mingana reste entachée à ce jour par des accusations de falsification à propos de certains textes.
Vous suivez Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Gros-Didier. Des crevettes pour combattre les parasites de la schistosomiase en Afrique? Mais oui, c'est tout à fait possible. Aminata Koulibaly explique.
Une étude de scientifiques internationaux est parvenue à la conclusion que les crevettes d'eau douce pourraient être un moyen efficace de contrôler les parasites responsables de la schistosomiase, une maladie potentiellement mortelle et handicapante qui affecte 230 millions de personnes, surtout en Afrique. Dans leurs études publiées dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences, des chercheurs de l'Université Stanford en Californie expliquent que ces crevettes s'attaquent aux escargots et limaçons porteurs de vers parasites en les éliminant. Ayant fait équipe avec des scientifiques sénégalais, les chercheurs de Stanford ont mis leur théorie à l'essai dans deux villages au Sénégal. Ils ont lâché un grand nombre de crevettes à un point d'accès, à une rivière utilisée quotidiennement par les habitants du premier village. Après 18 mois, ils ont constaté une réduction de 80% du nombre des escargots infectés par les parasites, ainsi qu'une diminution de 50% des personnes contaminées par ces rivières, comparativement aux villages témoins dont la rivière n'ayant pas été repeuplée de crevettes. Donc, il s'agirait d'encourager les communautés concernées à maintenir des populations de crevettes dans leurs rivières, d'autant qu'elles pourraient soit constituer une nouvelle source de revenus pour les villageois, soit enrichir leur régime alimentaire. La schistosomiase peut provoquer de l'anémie, de l'infertilité, une déférence hépatique, un cancer de la vessie et des problèmes cognitifs durables. Le seul traitement contre la maladie est le médicament praziquantel dont on dispose en quantité insuffisante.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé, un programme de VOA Afrique diffusé par La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier. Le paludisme tue, on le sait, puisque près de 550 000 personnes décèdent chaque année de la maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et il s'agit à 86% d'enfants, en majorité de petits Africains. Le paludisme peut causer la mort en 24 heures. Après l'apparition des premiers symptômes, et un petit habitant d'Afrique subsaharienne peut contracter la maladie jusqu'à 12 fois en un an. D'où l'espoir suscité par un nouveau traitement qui met hors de combat une protéine essentielle à la survie du parasite qui transmet la malaria. Le point avec Chérubin Dorsil.
Le composé mis au point est surnommé le DSM-265. Il s'agit d'un inhibiteur puissant et sélectif du parasite du paludisme, doté d'un excellent profil de sécurité. Il pourrait s'avérer le tout premier médicament efficace en une seule dose contre la malaria. Le DSM-265 cible une protéine dont le parasite a besoin pour se reproduire. En son absence, il ne peut pas continuer à infecter le sang. Le composé détruit le parasite à tous ses stades de développement, depuis les spores qui pénètrent dans le corps de la personne mordue par un moustique jusqu'aux larves nichées dans le foie à partir duquel elles peuvent infecter les cellules rouges. Pradeep Rathod, un professeur de chimie à l'Université de Washington, fait partie de l'équipe qui a découvert le DSM-265. Celle-ci rassemble les chercheurs d'une vingtaine d'institutions. Les essais initiaux ont démontré l'efficacité du composé, explique-t-il, contre les parasites qui avaient déjà infecté les cellules rouges. D'autres tests se sont révélés tout aussi prometteurs. Ces autres études ont montré que le composé était tout à fait efficace contre le parasite à ces autres stades, de sorte qu'il peut être utilisé à titre préventif et peut être utilisé dans les zones où les gens anticipent de se faire piquer par les moustiques et d'être infectés, de telle sorte que l'on élimine le parasite tout au début avant qu'il ne contamine le sang, explique en substance M. Rathod. Cela fait des années que la communauté médicale tente de mettre au point un nouveau traitement contre le paludisme, le parasite devenant de plus en plus résistant. Pourquoi ce nouveau médicament a-t-il été affublé du nom DSM? En fait, DSM sont les initiaux de trois villes, Dallas, Seattle et Melbourne, où les chercheurs qui luttent pour sauver des millions de vies sont installés. Ils ont mis à l'essai des centaines de molécules avant de tomber sur DSM-265. La 265e version du nouveau composé s'avérant la plus efficace contre le parasite. L'espoir est donc qu'à terme, il permettra de fabriquer un puissant médicament contre le palud. Prochaine étape, des essais cliniques vont commencer, affirment les scientifiques dans leur étude publiée dans le journal Science Translational Medicine.
Vous suivez Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Gros-Didier. Ici Washington, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Une thérapie génétique expérimentale a non seulement donné des résultats encourageants pour restaurer partiellement la vision de personnes atteintes de cécité rare, mais a modifié le cerveau des personnes sous traitement. Je laisse Michel Joseph vous en dire plus.
En 2007, des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie ont traité, sous la direction du professeur d'ophtalmologie Gene Bennett, plusieurs jeunes adultes souffrant d'amaurose congénitale de Leber, ACL. Cette dégénérescence incurable des récepteurs lumineux de la rétine entraîne une cécité progressive et complète chez les sujets, entre l'âge de 20 à 30 ans environ. Les scientifiques ont injecté aux malades un virus génétiquement modifié qui sert de vecteur pour acheminer une version normale du gène RPE65 dont la mutation est responsable de leur maladie. Et ces malades ont pu recouvrer une partie de leur vue.
Après l'intervention, les enfants impliqués dans notre étude ont pu se rendre en vélo chez leurs amis ou même jouer au sport. Le changement a été incroyable.
Tellement dramatique que les chercheurs se sont intéressés à son impact sur le cerveau de leurs sujets. Madame Manzar Ashtari, de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, qui a effectué les échographies de cerveau, explique que le cerveau des sujets a réagi aux stimuli visuels formant de nouvelles connexions.
Je pensais qu'un changement aussi dramatique, ne pas voir, puis voir soudainement, devait vraiment affecter le cerveau. Et donc, je me suis dit qu'il fallait voir s'il y avait une différence.
2 ans après la procédure, la chercheure a scanné les cerveaux de 10 patients, comparant les yeux traités à ceux non traités, ou encore aux yeux de personnes voyant normalement. Tout comme ses collègues, elle a été stupéfaite par ce qu'elle a découvert.
Le cerveau était incroyablement calme au début, comme s'il me disait « je ne vois rien ». Et puis, il est passé de cet état à celui où c'était comme si le soleil brillait à l'intérieur du cerveau. C'était étonnant.
Même chez des patients âgés de 45 ans, la différence était frappante, font valoir mesdames Ashtari et Bennett, alors que l'on croyait qu'il serait trop tard pour eux, vu leur âge. ce qui encourage les chercheurs à aller encore plus loin, puisqu'on sait maintenant à quel point le cerveau est flexible et combien il réagit favorablement à ce que l'œil peut voir, même tard dans la vie. Les travaux des chercheurs ont été publiés dans la revue Science Translational Medicine.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi. Bienvenue.